Et effectivement, le signe que ce sont la fin des vacances, c'est aussi parce que bientôt approche la rentrée et on y pense. Mais je voulais quand même que nous conservions encore un peu cette air de vacances. Ça vous plaît, hein? Et pourtant, si on voit un peu l'envers du décor, on verrait plutôt ce genre de choses. Toujours sur les Maldives. Autre photo pour vous donner un autre aperçu. On aime bien ce genre de cliché. On aime bien qu'on nous prenne pour ce genre de cliché. Mais l'envers du décor, c'est qu'il y a plein de gens qui attendent derrière de faire la même chose. On a peut-être tous déjà fait ce genre de photo. Voilà. On a un monument derrière, on essaye de faire mine qu'on est en train de le porter. Et à côté de ça, la réalité, vous la connaissez aussi, c'est celle-ci. Et on est tous à côté, en fait. Et cette posture n'a rien de très signifiant. Tout ça pour vous dire que le livre de l'Ecclésiaste sur lequel nous sommes en ce moment n'a rien à voir avec Instagram et tous les filtres qui existent pour masquer la réalité. Au contraire, ce livre ressemble davantage aux photos qui nous montrent la réalité. Le Qohélète ne cache rien de ce qui rend la vie dérisoire. Les frustrations, les déceptions nous sont présentées telles que nous pouvons les expérimenter dans notre vie. Et le texte de ce matin que nous allons lire ne fait pas exception. C'est la réalité de notre condition humaine depuis que par la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde. Il en est ainsi. Cette condition est la même depuis ce moment-là. Et dans la première grande partie du livre, le Qohélète, le maître de sagesse, décrit justement précisément cette réalité. Et nous arrivons vers la fin de cette première grande partie. Je vous invite à écouter la lecture de la parole de Dieu en Ecclésiaste chapitre 6. J'ai constaté qu'il y a un mal sous le soleil, et ce mal est grand pour les hommes. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur, si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire. Mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter, et c'est un autre qui en profitera. Cela aussi est dérisoire. C'est un mal affligeant. Un homme peut avoir 100 enfants et vivre de nombreuses années, mais quelque nombreux que soient les jours de son existence, s'il n'a pas joui du bonheur, et s'il n'a même pas de sépulture, je dis qu'un enfant mort-né a un sort meilleur que le sien. Car l'avorton est né en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son souvenir sombre dans la nuit de l'oubli. Il n'a pas vu le soleil, il n'a rien connu du monde, il est donc plus tranquille que cet homme. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans si on ne goûte pas au bonheur? Finalement, tous ne s'acheminent-ils pas vers le même lieu? L'homme ne trime que pour répondre à ses besoins. Et pourtant, son appétit n'est jamais satisfait. Qu'a le sage de plus que l'insensé? Quel avantage le pauvre a-t-il de savoir se conduire sur le chemin de la vie? Mieux vaut ce qu'on a dans la main que ce vers quoi se porte le désir. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. Ce qui est a déjà été nommé et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut pas contester avec celui qui est plus puissant que lui. Plus on multiplie les paroles, plus on accroît la frustration. Et à quoi cela avance-t-il l'homme? Finalement, qui peut savoir ce qui est bon pour l'homme pendant sa vie, pendant chaque jour de son existence dérisoire qui fuit comme une ombre? Et qui pourra lui révéler quel sera son avenir sous le soleil? Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, nous avons besoin que tu nous éclaires, que tu ouvres notre intelligence pour comprendre de nouveau ce texte, pour comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Et nous sommes convaincus que le texte que nous venons de lire est ta parole, inspirée. Et nous voulons te remercier parce que cette parole nous est accessible, pour nous ouvrir les yeux sur la réalité telle qu'elle est. Guide-nous, Seigneur, encore dans la compréhension de ce que tu veux nous dire ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. comme un nouveau coup de marteau pour enfoncer le clou, nous sommes déjà au sixième chapitre, hein, le Qohélète évoque dans le texte que nous venons de lire des situations qui révèlent des malheurs, des frustrations, des déceptions qui sont bien réelles dans la vie. Le texte se termine aussi par des questions, comme vous le voyez, des questions qui nous font réfléchir, des questions qui renvoient en même temps à nos limites en tant qu'êtres humains. Et pour ce matin, je vous propose de vous emmener dans ce texte comme dans un musée de la condition humaine. Et je vous propose d'entrer dans la première salle, la salle que j'ai intitulée « Une vie sans bonheur ». Examinons ce que dit le Qohélète sur ceux qui ont beaucoup reçu et qui pourtant n'en profitent pas. D'emblée, vous voyez au verset 1 que la situation présentée par le Qohélète est présentée comme un malheur dans notre existence, dans cette existence. Cela, bien sûr, ne touche pas tous les hommes. Et précédemment, par exemple, nous l'avons vu la semaine dernière, au chapitre 5, le Qohélète parlait de la situation de l'homme à qui Dieu donne des richesses, des biens, et il donne en même temps la possibilité d'en profiter joyeusement. Mais ici, on est dans le cas contraire. L'homme a reçu de Dieu des biens, mais il ne peut en profiter. Regardez bien ce premier tableau, verset 2. « Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur, si bien qu'il n'y manque rien de ce qu'il désire. Mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter. Et c'est un autre qui en profitera. Cela aussi est dérisoire, c'est un mal affligeant. » Ce qui est particulièrement affligeant, c'est de posséder des biens sans pouvoir en profiter. Cette semaine, j'entendais l'histoire récente d'un homme qui s'est fait construire une piscine chez lui, pour une certaine somme d'argent. Vous pouvez avoir une idée de combien coûte une piscine. Et jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais le problème, c'est que cet homme n'a pas reçu l'autorisation de remplir sa piscine à cause des restrictions d'eau. N'est-ce pas frustrant de posséder un bien, de ne manquer de rien et pourtant de ne pas pouvoir en profiter? Vous pouvez imaginer la frustration d'un tel homme. Le Qohélète envisage même le cas où c'est un autre qui en profiterait. Et certaines circonstances de la vie peuvent effectivement empêcher une personne riche de profiter de ses biens, comme par exemple la maladie ou bien la mort. Ben oui, une fois mort, on ne peut plus profiter de ses biens. Un autre élément doit quand même attirer notre attention sur ce même verset 2. Si cette personne qui nous est décrite ne peut profiter de ce qu'elle possède, nous lisons que c'est parce que Dieu ne lui en donne pas la possibilité. Cela peut nous troubler de lire cela. Parce que d'un côté, Dieu donne des biens et même des honneurs, et de l'autre, il ne donne pas d'en jouir. Cela nous rappelle que notre Dieu est souverain. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 115, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Dieu est-il obligé de donner avec la richesse la possibilité d'en profiter? Visiblement non, d'après le verset 2. Il n'est pas obligé de faire cela. Il peut nous donner la richesse et ne pas nous permettre d'en profiter. Pensons à Job, dans la Bible, à cet homme intègre devant Dieu qui a tout perdu du jour au lendemain. Qu'a-t-il répondu quand sa femme l'a incité à maudire Dieu à cause de tous ses malheurs? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Quoi, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur? Bonheur et malheur viennent de la même source. En tout cas, Job le reconnaît. Et un chapitre avant, il disait « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris ». Et c'est quoi la suite? Que l'Éternel soit béni. Dans notre texte de l'Ecclésiaste, nous ne savons pas si l'homme en question était juste ou non. Et ce n'est pas là le propos du Qohélète. Mais il nous livre simplement son constat, que certains, sous le soleil, ne profitent pas de leur richesse. C'est dérisoire, et cela vient de Dieu. Puisqu'il en est à envisager des situations affligeantes, eh bien le Qohélète nous parle d'un homme qui est père de 100 enfants, qui a reçu la longévité, mais qui n'a pas connu le bonheur. C'est ce que nous voyons au verset 3. C'est notre deuxième tableau. aussi affligeant que le premier. Malgré les très nombreux descendants, aucun d'entre eux n'a pris la peine de s'occuper de la sépulture de cet homme, ce qui était considéré pour l'époque, mais on peut le dire aussi pour aujourd'hui, comme une grande humiliation. C'est tellement affligeant que le sort d'un enfant mort-né est préférable. Au moins, celui-ci n'a pas à vivre tout ce que cet homme a vécu de son vivant. Au moins, celui-ci n'a pas connu le malheur, contrairement à cet homme. Et que veut montrer le Qohélète ici par cet exemple extrême ? Parce que bien sûr, je pense que c'est un cas de figure assez rare. Un homme qui a 100 enfants, vous n'en connaissez sans doute pas beaucoup. Mais qu'est-ce que le Qohélète veut montrer par cet exemple extrême ? Qu'en fait, c'est vraiment affligeant, que c'est vraiment dérisoire de vivre aussi longtemps sans connaître le bonheur. Et c'est ce qu'il veut dire aussi au verset 6. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans, à supposer que ce serait possible, si on ne goûte pas au bonheur ? La vie d'un pécheur a un terme, conformément à la sanction que Dieu a appliquée depuis Genèse 3. Ce qui est dérisoire dans une longue vie, c'est de ne pas pouvoir goûter au bonheur. C'est une perspective qui nous semble terrible. Imaginez si on était amené à savoir qu'on allait vivre longtemps, mais sans le bonheur. C'est une perspective qui nous semble terrible, et même absurde en fait. À quoi bon vivre très longtemps si c'est sans connaître le bonheur ? Au bout du compte, si notre existence terrestre s'achève par la mort, nous aimerions au moins goûter au bonheur. Et dans sa grâce, Dieu donne à ses enfants le bonheur au moins de le connaître, d'être en communion avec lui, d'avoir une relation personnelle avec lui. Nous l'avons dit un peu plus tôt durant ce culte. Et tout cela rendu possible grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Tiens, j'ai eu un petit souci. Voilà. Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, grâce à l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est pour ça que nous pouvons être en relation avec Dieu. C'est pour ça que nous pouvons connaître au moins ce bonheur si nous n'avons rien d'autre. Oui, en cette vie, nous pouvons au moins goûter au bonheur de connaître Dieu, en attendant que ce bonheur soit total et éternel. Et parmi les maux affligeants de la condition humaine, il y a ces situations où le bonheur échappe à ceux qui auraient tout pour être heureux. Voilà le comble, avoir tout, mais ne pas pouvoir en profiter. Cela montre toute la fragilité d'une situation donnée, d'un statut social, d'une position qu'on a même dans sa propre famille. Rien ne garantit à la personne qui possède tout, tout ce qu'elle désire, qu'elle pourra en profiter. L'être humain ne peut compter sur ses biens, ou même compter sur ses enfants pour être heureux. J'en discutais encore avec Damaris cette semaine. N'est-ce pas affligeant de savoir qu'il y a encore tant de personnes âgées qui ne reçoivent aucune visite de leurs enfants, qui sont complètement laissées à l'abandon? Quel contraste avec les parents qui misent leur bonheur sur leurs enfants. Non, tôt ou tard, les enfants finissent aussi par décevoir. Le bonheur durable ne se trouve pas là. Ces deux tableaux que nous venons de voir d'une vie sans bonheur doivent d'autant plus susciter notre reconnaissance quand nous avons la possibilité d'avoir un peu de bonheur dans notre vie. Et nous ne sommes pas tous égaux à ce niveau-là. Nous devons d'autant plus être reconnaissants parce que nous savons que ce peu de bonheur auquel nous pouvons goûter en cette vie nous vient de Dieu. Si certains ne peuvent profiter de ce que Dieu leur donne, d'une manière générale, nous connaissons tous de l'insatisfaction en cette vie. Et je vous propose de passer à la deuxième salle du musée. Cette deuxième salle s'intitule « Une vie insatisfaisante ». Alors, on ne va pas vers le mieux. Donc, une vie insatisfaisante. Je vous laisse imaginer quel pourrait être le tableau ou la figurine ou la sculpture qui illustrerait le verset 7. Alors je vous montre le verset 7. Essayez d'imaginer quel serait le tableau qui représenterait le mieux ce verset, ou quelle serait la sculpture ou une œuvre d'art, ou la photo. L'homme ne trime que pour répondre à ses besoins, et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Le travail est une façon de pourvoir à mes besoins matériels. Alors, je vois des hochements de tête. Oui, globalement, vous êtes d'accord avec ça ? Le travail est une façon de pourvoir à mes besoins matériels. Et il se trouve qu'une enquête qui a été menée récemment par le CNEF, pour savoir justement comment les chrétiens vivaient leur identité et leur foi au travail, eh bien, nous donne ce résultat. Que 49% des personnes interrogées ont répondu « Oui, tout à fait, le travail, en tout cas dans leur perception du travail, ils voient le travail comme une façon de pourvoir à leurs besoins matériels. » Et puis, curieusement, 6% disent plutôt non ou pas du tout. Ils ne voient pas du tout leur travail de cette manière-là. Alors, il semble quand même, quand on voit le texte du Qohélète, qu'il penche plus du côté des 49%. Et je relis simplement le verset 7 dans une autre version plus littérale. Écoutez. « Toute la peine de l'homme est pour sa bouche, et cependant, son gosier n'est pas rempli. » Ça, c'est la version plus littérale de ce verset. « Toute la peine est pour sa bouche, et cependant, son gosier n'est pas rempli. » Est-ce que là, vous imaginez un peu le tableau ? Nous retrouvons cette idée que l'homme travaille pour vivre, pour manger. Nous avons d'ailleurs en français une expression toute faite pour désigner cette réalité, le gagne-pain. Vous avez déjà entendu cette expression. Même si le travail, bien sûr, ne se résume pas juste à cette utilité, il faut bien avouer que c'est une des raisons pour lesquelles nous travaillons. Parfois, effectivement, nous le faisons pour nous, mais aussi nous le faisons pour notre famille. Et il en est ainsi conformément à ce que Dieu avait dit à Adam. Genèse 3, verset 17, « Le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. » Avant la chute, l'homme n'avait aucune peine pour se nourrir. Son travail n'était pas pénible. Les fruits étaient à sa portée. Mais à cause de sa désobéissance, Dieu a rendu son travail pénible. Et nous en avons déjà parlé dans cette série. Ce qui est dérisoire, c'est de se donner de la peine pour satisfaire ses besoins. Et finalement, que ce ne soit jamais assez. Si ce matin vous avez pris votre petit déjeuner, vous avez peut-être comblé votre faim, mais d'ici peu, il vous faudra encore manger. Et demain, et les jours suivants aussi. Le comble, c'est finalement de se donner de la peine afin de pouvoir manger, et en fait d'être jamais satisfait. Ce n'est jamais assez. On n'a jamais mangé une fois pour toutes. Ce serait peut-être bien, certains vous aimerait bien pour ne pas pouvoir prendre du poids, par exemple. Mais non. De ce côté-là, que l'on soit sage ou insensé, où est la différence ? Le Qohélète pose la question de l'avantage au verset 8. Non pas pour dire que la sagesse ne vaut rien, mais qu'elle ne permet pas en fait d'avoir un sort différent de l'insensé. Le fait que son appétit ne soit jamais satisfait est commun à tous. Et la sagesse que possède par exemple un pauvre, comme nous dit le Qohélète, lui permet bien sûr de savoir comment se conduire dans la vie, mais n'ôte pas son appétit. Ce qui est dérisoire, c'est que la vie est faite d'insatisfaction. Nous ne sommes jamais complètement comblés, ou comblés une fois pour toutes. Et de nouveau, il nous faut nous lever, travailler, gagner notre vie d'une manière ou d'une autre, manger et recommencer ce cycle. Néanmoins, le Qohélète nous amène à considérer ce qui est le mieux. Et j'aimerais attirer votre attention sur le verset 9. « Mieux vaut ce qu'on a dans la main que ce vers quoi se porte le désir. » Ici, c'est le sujet du contentement dont il est question. Se contenter de ce qui se trouve déjà dans la main ou sous nos yeux, c'est mieux que d'être consumé par des désirs inassouvis. Nous pourrions longuement parler du contentement, C'est un thème qui se trouve dans la Bible et dans bien d'autres textes. L'apôtre Paul évoque aussi le sujet, notamment avec les chrétiens de Philippe, qui l'ont volontiers soutenu financièrement. Et dans ce contexte-là, il leur écrit ceci, Philippiens 4, versets 11 à 13. Voici ce qu'il leur dit. « J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Le contentement s'apprend, il n'est pas inné. Nous ne sommes pas nés contents. Nous l'apprenons. Surtout peut-être particulièrement dans une société comme la nôtre. On apprend à être content, à nous contenter de ce que nous avons. Nous pouvons apprendre à nous contenter de ce que nous avons sans céder à la pression du consumérisme ambiant qui veut toujours nous rendre insatisfaits. Grâce à Dieu qui nous fortifie, et c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre « je peux tout par celui qui me fortifie », grâce à Dieu qui nous fortifie, c'est possible. C'est possible d'être content. Cependant, même si nous apprenons le contentement, eh bien nous ne pouvons nous empêcher d'avoir des besoins. Nous ne pouvons nous empêcher d'avoir des désirs. Et certains désirs sont légitimes. Les frustrations dans cette vie sont inévitables. Voilà ce qui est dérisoire. Permettez-moi de vous laisser seulement cette question. Savez-vous être content avec ce que vous avez ? Et comprenez que ce que je veux dire par là, c'est savez-vous être content avec ce que Dieu vous donne ? La première salle nous montrait une vie sans bonheur. Et vous n'avez sans doute pas beaucoup aimé cette salle. La deuxième salle révélait une vie insatisfaisante. Et je pense que vous n'avez pas plus aimé cette deuxième salle. Et la dernière pièce, elle est là pour nous faire réfléchir. Cette troisième salle, dans laquelle on va juste s'asseoir, vous êtes déjà assis, mais moi pas. Dans cette troisième salle, je l'ai intitulée « Notre vie ». Peut-être qu'on a pris un peu de distance par rapport à tout ce que j'ai évoqué. On se dit, ça, c'est pas ma vie. Moi, je suis satisfait. Moi, j'ai pas de souci avec le fait de profiter de mes biens. Mais là, on arrive dans la salle où il faut réfléchir sur sa vie, sur notre vie. Et dans cette salle-là, il n'y a pas de tableau spécialement. Il y a juste un banc où vous pouvez vous asseoir. C'est mieux pour réfléchir, peut-être. Et juste des murs vides et peut-être quelques photos de votre vie jusqu'à maintenant. Une salle propice pour réfléchir. Et c'est là que nous lisons les versets 10 à 12, 10 à 11 d'abord. « Ce qui est a déjà été nommé, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut pas contester avec celui qui est plus puissant que lui. Plus on multiplie les paroles, plus on accroît la frustration. Et à quoi cela avance-t-il l'homme ? Comme un bilan que le Qohélète fait de tout ce qu'il a dit précédemment, il montre que dans la condition misérable dans laquelle se trouve l'homme, l'homme ne peut rien y faire. Vous êtes arrivé dans cette troisième salle et vous vous rendez compte, vous ne pouvez rien faire qui change votre condition. L'homme ne peut échapper à sa condition humaine. Il n'y a pas d'issue pour lui, tout simplement parce que l'homme n'est pas de taille face à Dieu. C'est ce que nous comprenons quand il est question de celui qui est plus puissant que lui. L'homme ne peut contester avec celui qui est plus puissant que lui. Qui est plus puissant que l'homme si ce n'est Dieu ? À quoi bon vouloir contester comme si nous méritions mieux ? Parce que si on a envie de contester avec le Créateur, c'est parce qu'on estime qu'on mérite mieux que la vie qu'on a. Mais à quoi bon ? L'homme ne peut contester avec celui qui est plus puissant que lui. Et plus l'on parle de cette condition misérable, et plus cela est frustrant. C'est comme ça que nous pouvons comprendre le verset 11. Plus on multiplie les paroles, plus on accroît la frustration. Plus on en parle, et plus ça nous frustre. Et il faudrait que je m'arrête là, en fait. En fait, la juste attitude est de nous soumettre à celui qui nous a placés sous le soleil, dans notre condition de créature, dans notre condition humaine. Voilà la juste attitude. Ce n'est pas de contester avec lui, mais c'est de nous soumettre. Au verset 12, le Qohélète pose d'autres questions. Finalement, qui peut savoir ce qui est bon pour l'homme pendant sa vie, pendant chaque jour de son existence dérisoire qui fuit comme une ombre? Et qui pourra lui révéler quel sera son avenir sous le soleil? L'homme est coincé dans sa condition, dans cette réalité détraquée par le péché, de telle sorte qu'il est difficile de savoir ce qui est bon. Le Qohélète a fait état de ce qu'il avait observé sous le soleil, et il a conclu que tout est touché par la futilité dans cette existence. Comment l'homme parviendra-t-il à naviguer dans les eaux troubles de la vie? Comment pourrait-il s'orienter dans ce labyrinthe qu'est la vie? Un labyrinthe en plus aux choix multiples. S'il faut prendre de bonnes et sages décisions, comment doit-il s'y prendre? La vie semble si compliquée. Comment prendre de bonnes décisions dans ce genre de conditions? Et en plus de cela, l'homme n'a même pas la connaissance de l'avenir. Il ne sait pas ce qui sera après lui. Il ne sait pas de quoi sera faite sa vie. Je pourrais m'arrêter là, en me disant, voilà, on est dans une impasse. Et puis, bonne semaine, et à la semaine prochaine. Mais celui qui peut savoir ce qui est bon pour l'homme, c'est bien Dieu, le Créateur. C'est pourquoi nous continuons de nous mettre à son écoute. C'est pourquoi nous nous laissons instruire par sa sagesse qui est dans sa parole. Dieu seul a la maîtrise de tout ce qui fait notre vie, qu'elle soit longue ou courte. Dieu seul est le maître qui conduit l'histoire de l'humanité. Et heureusement qu'il en est ainsi, parce que autrement la croix n'aurait pas eu lieu si Dieu n'était pas maître de l'histoire. Parce que notre Dieu est souverain, parce que Dieu s'intéresse à nous dans notre condition misérable, il a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour régler une fois pour toutes le problème qui détraque toute la création, qui détraque toute notre réalité, à savoir le péché. La mort et la résurrection de Jésus nous garantit que non seulement nos péchés sont pardonnés, si c'est bien en Jésus que nous mettons notre espoir, notre confiance, mais aussi la garantie que ce monde corrompu ne restera pas indéfiniment ainsi. Que nous ne serons pas indéfiniment dans ce labyrinthe où nous ne savons pas comment nous orienter. Le Dieu qui a œuvré puissamment pour notre salut sait ce qui est bon pour nous. Celui avec qui nous ne pouvons pas contester sait ce qui est bon pour nous. Et pour la rentrée qui approche à grands pas, eh bien, nous avons grandement besoin d'une bonne dose de sagesse pour faire face aux frustrations qui surgiront inévitablement, pour faire face à ce qui est dérisoire dans la vie. Et cela aussi est inévitable. Et nous savons qu'il nous faut demander cette sagesse à Dieu lui-même, à Dieu qui donne généreusement et sans faire de reproches. C'est ce que nous lisons dans la lettre de Jacques, chapitre 1, verset 5. Dieu donne généreusement et sans faire de reproche à ceux qui lui demandent la sagesse. Comment comptes-tu mener ta vie, toi qui ne sais rien de ton avenir? Il me semble que l'option la plus sage est de nous en remettre à notre Dieu, de lui faire confiance, de traverser cette vie avec lui. Il n'y a pas d'option plus sage que celle-là. Le Qohélète ne laissera pas ces dernières questions que nous venons d'évoquer sans réponse. Il donnera des éléments de réponse au chapitre 7 et dans la seconde partie du livre. Mais je vais ajouter une frustration, parce qu'il faudra attendre un an avant de poursuivre notre série sur l'Ecclésiaste. Oui, je sais, il y a une frustration là. Donc notre série va s'arrêter là, et dans un an, eh bien, si Dieu veut, nous reprendrons. Mais d'ici là, parce qu'on continuera sans doute à vivre, si Dieu veut, d'ici là, considérons la réalité telle qu'elle nous est présentée dans la parole de Dieu, et en particulier par le Qohélète. Ayons Dieu pour guide. Il est le seul à pouvoir nous apprendre à vivre la vie telle qu'elle est, sans nous voiler la face, juste en assumant pleinement notre condition. Avec Dieu, vous pouvez être certain que nous ne serons pas perdus dans cette existence. Oui, parfois il nous arrive de nous sentir perdus. Mais si nous savons vers qui nous tourner, alors nous pouvons avoir cette certitude que nous ne serons pas totalement perdus dans cette vie, dans ce labyrinthe, dans cette existence qui est dérisoire. Et je repense à ce moment où les disciples avaient le choix de quitter Jésus, comme d'autres qui l'ont abandonné. On lit cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, versets 67 à 69. Alors Jésus, se tournant vers les douze, leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir, comme tous les autres ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous avons mis toute notre confiance en toi, et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Vers qui d'autre irions-nous en cette période de rentrée ? Vers nul autre que celui qui a le pouvoir de nous donner la vie éternelle et de nous y mener. Alors, je vous propose maintenant qu'on puisse sortir de notre musée. Peut-être qu'il vous a fait bien déprimer aussi. Donc sortons de notre musée et allons à la suite de notre Seigneur. Amen. Prions ensemble.